Une grande question. Sommes-nous en train d'accomplir notre mission? Je pensais à une histoire que j'avais entendue, qu'il y avait un gardien de phare. Sa responsabilité, sa seule responsabilité, on lui a donné une somme d'argent tous les mois. Et avec cette somme d'argent, il devait faire livrer du carburant afin que la groupe électrogène puisse créer du courant afin que le phare puisse être éclairé tout le soir. Ou un soir, une des soirs, il y avait une tempête, et là, quelqu'un a passé dans le coin, il n'y avait pas le phare. Il n'y avait pas la lumière. Et puis, le bateau s'est fait naufrager. Les personnes sont mortes. Après, une grande enquête a été faite, ils sont venus vers le gardien. Le gardien du phare, il a dit, « Mais monsieur le gardien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y avait pas de... Pourquoi il n'y avait pas de lumière? Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière est en panne, le phare est en panne, c'est quoi le problème? » Elle dit, mais le problème, c'est que j'avais beaucoup de gens dans le coin qui avaient besoin de l'essence. Ils avaient un peu pour même chauffer leur maison, pour leur voiture. Et là, ils sont venus me demander, et j'avais un cœur qui a été touché, alors j'ai donné. Et c'est suite à ça que je n'ai plus. Mais quelle était ta mission? Pourquoi es-tu là? Il y a les morts. On comprend bien, c'est très charitable, c'est très... bien d'aider les autres, mais tu avais une mission, et ta mission était d'être la lumière pour éviter ces naufrages. Et là, il était sanctionné. Chers amis, nous allons nous présenter devant notre bien-aimé Seigneur. Et quelle est la question qu'il va nous poser? Est-ce que vous avez accompli la mission que j'avais pour toi? Peut-être vous pouvez me poser la question tout de suite, mais Charles, je ne connais même pas la mission. Et là, il faut qu'on en parle. Si on se présente devant le Seigneur, on dit, ah, pardon Seigneur, je ne savais pas qu'il y a une mission. C'est dire que la faute de l'Église, qu'on n'a pas fait notre rôle. Et aussi, c'est notre faute en tant qu'individu. Est-ce que, et combien, je peux vous dire, combien c'est facile d'être dévié par les bonnes choses? John, il a vu probablement pas mal de déraillements des églises. Je rappelle que dans notre église en Calédonie, après que ça a pris une certaine ampleur, il y avait toutes sortes de projets. Les gens, mais on ne peut pas faire ça. Et on était toujours tirés. Est-ce que c'est la mission objective? Est-ce que c'est la mission de l'église? Parce qu'on peut entrer dans toutes sortes d'œuvres, comment on dit ça, sociales, charitables, je ne sais pas. Mais d'épuiser notre force en faisant les choses, que quand on revient sur la parole et quand on pense à ce jour, qu'on doit se tenir devant le Seigneur, il va dire, rendre compte. L'apôtre Paul, c'est un frère qui a dit ceci, j'ai combattu le bon combat. À la fin. Et comme quoi que c'est un combat. Hein? C'est un combat, c'est pas une salle de récré. Hein? Confrontation avec l'ennemi. J'ai combattu le bon combat. Il n'a pas entré dans les combats avec les autres frères et sœurs. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on est tentés. Quelqu'un dit que les chrétiens, c'est les seuls soldats. Soldats du Seigneur qui piquent les autres soldats, quoi. On attaque les autres parce qu'ils font pas comme nous, ils sont voilà. Mais il a dit, j'ai combattu le bon combat, il n'a pas trompé l'ennemi, j'ai achevé la course. Ça sera merveilleux, n'est-ce pas, de se présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai achevé ma course, et que le Seigneur nous regarde et dit, oui, je sais. J'ai gardé la foi. Ce n'est pas par l'orgueil que Paul dit ça, mais il dit, j'ai gardé la foi par la grâce de Dieu. J'ai gardé le cap. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous. Il aurait aimé son avènement. C'est-à-dire que nous pouvons entrer dans ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les dernières paroles de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Je pense que vous avez dit la même chose. Il y a cette parole, mais le dernier. La Bible dit, tout est accompli. Et rendu là. Jésus a terminé sa course. Et heureusement, hein, il aurait pu lâcher, il aurait pu abandonner. Dans le jardin de Gethsémani, il était prêt. Oh, si c'est possible, je laisse que cette coupe s'éloigne. Non, il a persévéré. On passe par les jardins de Gethsémani dans notre vie. Mais après, il y a toujours la résurrection après. Quand on se meurt, quand on est mort à nous-mêmes. Alors, achevez la course qui est devant nous. J'ai lu une histoire ce matin. On essayait de comprendre et de faire un peu tangible. Et en fin de compte, c'est une question de un coureur. On dit ça pour les vélos, avec les vélos. C'est un coureur dans le. Et c'est Lance Armstrong. Bon, laissons à côté tout l'arnaque. Mais. Quand même, bon, ils ont donné les noms des montagnes, mais j'aurais dû les. Mais il y avait le dernier, il avait quand même quelques secondes en avance, mais quand même, chaque seconde compte. Hein. Et là, il est en train de monter une des. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est vers les Alpes, c'est une des montagnes. Et là, il y avait celui qui était juste derrière lui. Bon, il a gagné quelques secondes, il a. 38 secondes en avance, et puis après, quand il a commencé à monter la colle, il y a celui qui est en deuxième qui avait une énergie plus que. Et lui a doublé. Il a dit que le premier sentiment, arrête. Mais après, il a pensé, non, je ne peux pas arrêter, il faut que j'avance. Et là, il a commencé, il a dit, je vais la rattraper. Mais il y avait un spectateur qui était sur le bord de la route et qui avait un drapeau, peut-être vous avez entendu. Et là, il a fait un geste, ou il a, je ne sais pas, mais de toute façon, il a fait tomber Armstrong. Après, tout le monde a doublé. Boum, 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 boum. Mais tu peux imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit que dans le fond de son être, il a dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Après, il se lève, et puis après, vous pouvez imaginer que. Et là, on se sent là, des fois. On se sent dans cette. Bon, on est bombardé, on a que le mal qui vient contre moi. Mais non, il n'a pas lâché. Il dit, il faut que je termine. Et là, il se lève. Il a doublé pas mal d'autres personnes. Il n'a pas gagné. Mais il a terminé. Il a terminé la course. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous remplisse de cette feu, afin que nous puissions accomplir sa mission. Bon, peut-être c'est important pour nous de revenir des fois sur quelques questions. Qu'est-ce que l'Église, enfin? Bon, dans la Bible, nous avons une explication. C'est une assemblée. Et non pas un édifice. Hein? C'est-à-dire que dans la Bible, le mot ecclésie, hein, qui vient du mot hébreu, signifie hors d'eux. Hein? Et le mot ecclésie, c'est appelé hors du monde. C'est-à-dire, c'est une assemblée de croyants engagés, appelés du monde. Dieu a dit. Pardon? Hors du monde, excuse-moi. Appelé hors du monde, c'est-à-dire que Dieu dit, vous êtes dans le monde, peut-être verset-là. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous appellerai. Hein. Dans la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, Jésus a dit, mes pères, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les conserver du mal. Alors, c'est ce mot appelé hors. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et aussi un autre petit mot qui curiaon, qui signifie ce qui appartient à Dieu. Quand on parle de l'Église, c'est les deux mots. 111 fois, l'Ecclésia et caricon, c'est ce qui appartient à Dieu. Alors, c'est un organisme et non pas une organisation. Quelles sont les différences entre un organisme et une organisation? Premièrement, un organisme est vivant. Une organisation n'est pas vivante. Un organisme a combien de têtes?
Une
tête. Et une organisation peut avoir plusieurs têtes. On peut avoir plusieurs coprésidents. On peut avoir, voilà. Après, une organisation peut fonctionner sans tête. Bon, des fois, il y a un problème, le président doit démissionner ou quelque chose, mais ça peut fonctionner sans tête. Mais par contre, un organisme ne peut pas fonctionner sans la tête. Éphésiens 1, versets 20 à 23, en parlant de Dieu, Dieu l'a employé en Christ. Déployé en Christ. En lui ressuscitant des morts et en lui faisant asseoir à son droite dans les lieux célestes, au-dessous de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. J'ai trouvé cette phrase que je trouve que c'est très intéressant. Jésus-Christ doit être le fondement. La parole de Dieu doit être la règle en matière de foi et de pratique. Et l'Esprit de Dieu doit être l'administrateur. Seuls ceux qui confessent librement que Jésus est le Christ devrait pouvoir devenir membre de l'Église locale. On remet les choses sur les rails. Parce que pourquoi? L'Église est tellement sous l'attaque. Il y a quand même quelques images que Dieu donne de l'Église. Première, vous avez des idées? Corps. C'est pas un corps comme ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Ali quand j'ai vu ça. Plein d'énergie. Hein? C'est le corps. C'est le corps de Christ. C'est pas comme ça, hein, le corps de Christ. Des fois, on a une œil ici. Mais le corps de Christ. En 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7, il dit, il y a la diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Car à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'est-ce que le corps nous montre?
Organisation.
Différentes fonctions, ça va un peu vers le centre. Je dirais l'unité dans la diversité. Les mains ne font pas ce que font les oreilles. Les oreilles ne font pas ce que fait le pied. Et au lieu de dire, j'ai pas besoin, bon, si on lit tout le 1 Corinthiens 12, il y a ceux qui disent, mais j'ai pas besoin des pieds. Ouais, mais comment tu vas te déplacer? Tu as les bras forts, mais comment tu peux te déplacer sans les pieds? Ou le pied ne peut pas dire que je suis inutile, je suis là, j'ai que les 5 amis en bas de moi, que peux-je faire moi? Et chacun, le petit orteil peut dire, mais je suis inutile. Non. Chacun, Dieu a placé chacun. Avec les capacités différentes, nous voyons que ce que les musiciens ont fait ce matin, est-ce qu'on arrive à faire la même chose? Pas du tout. Dieu a donné les dons, les capacités à chacun afin que le corps puisse avoir cette diversité et sa force. À moi, il ne peut pas faire grand-chose. Après le corps, vous avez une autre idée? L'image dans la Bible, je donne un indice. Hein? Église, ouais. Mais quelle est cette image de l'église?
Les membres,
ok.
Travailler ensemble,
c'est tout ça, hein? C'est un édifice. Et justement, d'où vient le mot édification? Éphésiens 2, verset 21. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève. Édifice, c'est édification, c'est monter vers le haut. S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. C'est-à-dire que chacun de nous sommes les briques, on est les pierres, mais pas un pierre mort. On est les pierres vivantes. Pour construire, pour faire quoi? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand les gens y voient l'église évangélique baptiste de Brioles, c'est pas les quatre murs, là. C'est pas le panneau. C'est chacun de nous. C'est l'édifice. Après,
l'épouse.
Éphésiens 5, verset 24. Mariez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré pour elle, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église, comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Bon, après, plus tard, nous allons voir en Apocalypse, chapitre 20, il dit, l'esprit et l'épouse disent
bien.
C'est le rôle de l'église. Bon, on va arriver à ça. Après, le dernier. Quelle est une autre image que Dieu donne pour l'église? Donc, il est le berger. Jean chapitre 10, verset 1 à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur. Brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entrent, entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Pourquoi les gens autour de nous, ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait? Ils ne comprennent pas. J'ai eu l'occasion de voir ça un jour. Bon, c'était une vidéo. Mais en fin de compte, vous savez bien que à l'époque de la Bible, ils avaient plusieurs enclos. Hein? À cause des des bêtes qui rôdent autour, hein, les lions, c'est bien que les loups et tout cela. Alors il y avait un enclos où ils ont stocké, et comme ils n'ont pas assez pour un enclos pour chaque berger, ils ont mis plusieurs brebis dedans, de plusieurs bergers, de plusieurs troupeaux. Mais ce qui était étonnant, et que après, c'est que les bergers, eux, ils se mettent à la porte. Ils couchent à la porte. Et justement, Dieu utilise, Jésus nous utilise cette image en disant que voilà, il est à la porte, c'est lui qui protège. Le seul moyen d'entrer, après, si quelqu'un n'entre pas ailleurs, c'est pas vrai. Mais le vrai, pour les bergers, ils restaient à la porte. Après, c'est le moment de partir. Ce qui était étonnant, c'est que le berger, après ils ont demandé à une dizaine de personnes, le berger a dit, voilà le son que vous devez imiter. Et là, il a fait par un autre voix, hein, parce que là, les bourbis vont entendre. Il dit, viens le bourbis. Il continue de manger. Viens le bourbis. Et en fin de compte, tout le monde n'arrive pas. Et après, le berger, il arrive. Et c'est comme ils ont été électrocutés. Après, il vient en file en courant. C'est étonnant. Ils sont venus parce qu'ils entendent la voix du berger. Et le suit. Il les appelle par leur nom. Nous sommes son peuple. Mais est-ce qu'on dit? Quand même, l'Église, et c'est ça quelque chose qui me touche vraiment profondément, dernièrement. Selon 1 Timothée chapitre 2, 3, verset 4, l'Église de Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Chers amis, la fondation de l'Église est sous l'attaque. Le malin, il cherche à enlever notre fondation. Il cherche à enlever notre foi, notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église doit monter la vérité. C'est le fondement, hein? La colonne et l'appui de la vérité. Tu enlèves une Église, enfin une vraie Église, hein, je ne parle pas une Église qui suit le Seigneur. Tu enlèves la vraie Église, comment la vérité se trouve où? Après, même les gens diront un autre jour, mais la vérité est...
Je ne dis pas le mot.
C'est relatif.
Hein? Relatif, voilà.
Tout est relatif.
La vérité pour Yves, ce n'est pas peut-être la même vérité pour John. Il y a plusieurs vérités. Chers amis, il y a une seule vérité. Jésus qui était appelé la vérité, le véritable. La parole. Voyez comme, pourquoi la mission de l'Église est tellement importante. Quelle est notre mission? Le but principal de l'Église est de... Vous le voyez là-bas? Exalter le nom du Seigneur. Faire connaître Christ. Hein? Notre mission est de... Lis-le. Glorifier Dieu. C'est notre mission. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment, au-delà... Tout ce que vous demandez ou pensez, à lui soit la gloire où? Dans l'Église. Dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est le principal objectif, glorifier Dieu. Deuxième, s'édifier. On revient sur le mot édifice. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Elle doit se purifier elle-même. Hein, nous avons vu en Éphésiens 5, verset 27, mais le verset 26, il dit « Afin qu'il la sanctifia et en la purifiant par le lavage de par la parole. » Voilà. Le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte, irréprochable. C'est toujours, quand je lis ça, j'ai le dernier image du mariage. C'est le mariage de Claude, enfin votre fille, c'est pas Audrey?
Marina.
Voilà. Et quand j'ai vu dans sa la robe blanche resplendissant, c'est ça ce que Dieu veut, que nous soyons purs, irréprochables. Pourtant, là où nous sommes, c'est ça. L'Église doit enseigner la saine doctrine et mettre en garde l'Assemblée contre les attaques de l'adversaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire d'Ananias et Saphira? Ce qui s'est passé, c'est une des premières églises. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les gens qui ont dit, bon, 100% pour Dieu. Je viens, ils ont même vendu leur terrain, Dieu ne les a pas demandé de vendre ça. Mais ils ont vendu leur terrain, ils ont venu avec cet argent, bon, on va vivre sur ce petit qu'on a besoin, après, tout le reste, on donne au Seigneur. Afin que ceux qui en manquent, il aura de quoi. Après, Ananias et Saphira, ils ont dit, mais bon, ben, on va faire un peu la même chose, parce que tu sais, les autres, ils sont là, il faut voir qu'ils nous regardent, comme on est différent, qu'on ne fait pas notre engagement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben, on va vendre notre terrain, et on va emmener de l'argent, et on va dire, voilà tout. Mais en fin de compte, ils ont gardé une partie. Après, il vient, Ananias, il présente, voilà notre offrande, voilà, on a vendu notre. Et voilà pour nous. Et le Saint-Esprit, il regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est tout le sang? Ouais. Il a dit, mais les gars, ils sont à la porte, ils vont pas prendre ton cadavre. Il était foudroyé, sur place. Saphira, sa femme vient. Pierre, c'est pour quelle somme que vous avez? Elle a dit la même somme. Il a dit, mais les gars qui ont porté ton mari, viens pour toi. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la peur, la crainte de l'Éternel. On ne joue pas avec le Seigneur. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu y voit le cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, disait David. Parce qu'il n'y a rien de pur en nous. Dois-je être pur? Et l'Église doit évangéliser le monde. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit et l'Épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie. Et les comment? Gratuitement. Il faut juste accepter. Et quel est le rôle de l'Église là? De dire viens. D'inviter. C'est pas à nous de convaincre, heureusement. J'étais content le jour quand j'ai constaté que c'est pas mon rôle de convaincre. Pour pas monter les arguments, si la personne refuse d'accepter Dieu et sa parole, que puis-je faire moi? Il ne nous a pas demandé, il a dit vous serez tout simplement mes témoins. Quelque chose qui a changé notre vie. Alors, sommes-nous en train d'accomplir notre mission Vous voyez ce petit rouge là? Vous voyez ce petit point en bas? C'est notre Jérusalem. Le Var, c'est la Samarie. Hein? Judée, c'est peut-être la France. Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes une phare. Quelqu'un a bien expliqué qui a dit ça. La lumière qui brille et qui éclaire le plus loin, il est plus fort à sa base. Et cette feu, cette flamme, cette lumière, ça commence avec chacun de nous. Que le Seigneur souffle sur nos braises, qui fait de nous les témoins flamboyants pour le Seigneur. Seigneur, nous savons que cela ne vient pas de nous. Tu nous as confié à une mission qui est en dehors de notre portée physiquement, en dehors de notre portée et de nos capacités humaines. Mais tu as dit que tu as envoyé ton Esprit Saint, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez avec nous. Nous sommes forts par la puissance de quelqu'un d'autre. C'est ton esprit en nous. Seigneur, rechauffe nos cœurs. Que notre vie ne soit pas une vie stérile. Qu'il y aura du monde au ciel grâce à notre témoignage. Enlève la tiédeur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir dévié de notre mission. Aide-nous, Seigneur, de remettre le cap sur exactement ce que tu attends de nous, afin que nous puissions dire comme Jésus sur la croix, tout est accompli. Nous pouvons terminer notre vie en disant, Seigneur, j'ai achevé la course que tu m'as donnée, j'ai gardé la foi, comme l'apôtre Paul. Au nom de Jésus, Amen.